Il est 6h30 à Paris. Merci d'écouter Radio France Internationale. 4h30 à Bamako et en temps universel. Le début d'Afrique Matin avec vous, Sébastien Duhamel, bonjour.
Bonjour Gaëtan, bonjour à toutes et à tous.
Et ce sera probablement un journal plein d'émotions pour de nombreux auditeurs.
Car le Mali pleure aujourd'hui la mort d'Amadou Bakayoko, célèbre voix du duo Amadou et Mariam. Il avait 70 ans, c'est un monument de la musique qui nous quitte. Mais avant d'en venir à sa carrière, on sera d'abord en France dans cette édition où le juge d'instruction a bouclé l'enquête sur les biens mal acquis gabonais. 15 ans d'instruction qui impliquent notamment des proches d'Omar Bongo. Alors s'oriente-t-on vers un procès? Le parquet national financier devra trancher désormais. La fin de la visite du président ougandais Yoweri Museveni hier au Soudan du Sud. Il a réitéré son soutien à son allié Salva Kiir, mais pas d'avancée quant à la crise actuelle. Des négociations qui se poursuivent au Qatar pour ramener ici la paix dans l'est de la RDC. On fera un point ensemble sur ce processus de Doha. Un lanceur d'alerte libyen ciblé par la justice de son pays. Il s'appelle Samir Cheguara. Il a notamment dénoncé les crimes du régime de Muammar Kadhafi. Après le journal, notre reportage sur le calvaire des exilés subsahariens en Tunisie. Leur quotidien est de plus en plus précaire. Un combat personnel ensuite avec notre invité. En amont de la présidentielle au Gabon, le sénateur Jean-Elvis Ebangondo souhaite interpeller les candidats sur les drames des crimes rituels commis contre les enfants. Et puis des terrains beaucoup plus légers également avec l'actu sport, comme tous les jours sur la radio du monde. Voilà pour le programme, soyez tous les bienvenus. Quel est le point commun entre Pascaline Bongo, la fille aînée d'Omar Bongo, la banque française BNP Paribas et l'ex-Miss France Sonia Roland? Eh bien, tous sont cités en France dans l'enquête sur les biens mal acquis gabonais, tout comme 10 autres descendants de l'ancien président, un notaire, un avocat ou encore plusieurs sociétés immobilières. Le tout portant sur des soupçons laissant à croire qu'un patrimoine immobilier de quelque 56 milliards de francs CFA a été constitué frauduleusement, 85 millions d'euros. Et à Paris, c'est désormais le parquet national financier qui devra donc décider qui des personnes précédemment citées seront finalement jugées pour ces faits. Car ça y est, 10 ans après son ouverture, l'enquête du juge d'instruction est à présent terminée. Et pour William Bourdon, avocat de Transparency International France, partie civile dans ce dossier, eh bien c'est certain, il faut s'attendre à un procès.
C'est une saga judiciaire tout à fait exceptionnelle parce qu'il y a 15 ans qui aurait misé sur le fait qu'après la première plainte déposée par Sherpa, ça aboutisse après de longues investigations, mais finalement à la hauteur de la complexité, de la gravité du fait, pas si long que ça. D'abord un premier procès, hein, où Théodore Obiang, le rejeton du despote qui gouverne la Guinée équatoriale depuis des années, a été définitivement condamné. C'était le premier chapitre, maintenant il y a le deuxième chapitre. Et il n'y a pas de doute sur le fait que le parquet de Paris va rendre des réquisitions de renvoi devant le tribunal correctionnel de la ribambelle enfant et autres du clan Bongo, des bénéficiaires de ces flux illicites et de ceux qui les ont facilités. Donc il y a un versant français et un versant gabonais. Aucun doute, il y aura un procès et le dossier est tellement solide que je vois mal comment tout ce clan et tous ceux qui ont appauvri le pays pendant des décennies et décennies et les facilitateurs français, je vois mal, compte tenu de la solidité des charges, qu'il puisse échapper à une condamnation.
Maître William Bourdon, notons également dans ce dossier, quant au président gabonais, l'ex-président qui a été renversé en août 2023, Ali Bongo, le fils d'Omar Bongo, même s'il n'est plus fondé à se prévaloir de son immunité de chef d'État, eh bien selon William Bourdon, son état de santé ne permettrait certainement pas qu'il soit lui aussi poursuivi. Il a refermé sa visite de 2 jours à Djouba, le président ougandais Yoweri Museveni. Il a tout d'abord rencontré son allié au Soudan du Sud, le président Salva Kiir, et hier, il a poursuivi ses rencontres avec d'autres acteurs politiques dans un Soudan du Sud au bord d'une nouvelle guerre civile. Entretien à huis clos, mais sans le rival de Salva Kiir, à savoir le vice-président Riek Machar. Yoweri Museveni a donc réaffirmé son soutien à son homologue, son allié. Mais il est reparti sans horizon de sortie de crise en tout cas. Compte rendu de cette visite sur place avec Florence Mietto.
Des véhicules blindés et des milliers de soldats ougandais ont sécurisé l'aéroport ainsi que les axes stratégiques de Djouba pendant la visite de Yoweri Museveni. Les habitants ont ainsi pour la première fois pris la mesure de la présence militaire ougandaise au Soudan du Sud aux côtés de Salva Kiir, une présence faisant craindre une aggravation du conflit. Yoweri Museveni est l'un des garants de l'accord de paix de 2018, signé principalement par Salva Kiir et son rival Riek Machar. Mais le président ougandais n'a, semble-t-il, pas jugé souhaitable de rencontrer le vice-président Riek Machar Machar, qui est toujours en résidence surveillée malgré les nombreux appels à sa libération et à la restauration d'un dialogue pour désamorcer la crise. Peu de détails ont été communiqués sur le contenu des échanges entre Yoweri Museveni et Salva Kiir, puis avec le groupe des sages de l'Union africaine et enfin avec divers partis politiques sud-soudanais. Évoqué par la présidence sud-soudanaise sur Facebook, la présence de représentants du parti de Riek Machar lors de cette dernière rencontre est contestée. Joint par RFI, un porte-parole du parti du vice-président dit qu'aucun de ses membres n'a été autorisé à rencontrer Yoweri Museveni. Florence Mieto, Djouba, RFI.
Et notons ici que le groupe des sages de l'Union africaine continue de son côté ses consultations pour refermer aujourd'hui une mission à Djouba également. Il devrait tenter à nouveau de rencontrer le vice-président Riek Machar, une rencontre interdite jusqu'ici par le gouvernement sud-soudanais. Des négociations autour de la RDC, alors que l'AFC M23 affirme avoir fait un geste en faveur de la paix en quittant cette semaine la localité de Walikale-Centre, qu'elle contrôlait depuis deux semaines au nord Kivu. Dans le même temps, la médiation du Qatar se poursuit. Doha est parvenue à faire venir les délégués du gouvernement congolais et ceux de l'AFC M23. Objectif, toujours le cessez-le-feu, mais où en est-on concrètement? Élément de réponse avec Patient Ligaudi.
Les délégations ont regagné leurs quartiers généraux respectifs. Elles devaient s'élander sur sa diplomatique retourner à Doha une semaine plus tard. Mais à ce jour, aucune invitation n'a encore été envoyée et les détails logistiques n'ont pas encore été communiqués. Pour ce qui est de bilan, cette première phase tenue à Doha n'a débouché sur aucun résultat concret. Autre point soulevé par plusieurs sources, le mandat de la délégation congolaise. Elle était essentiellement composée de cadres des services de renseignement et de militaires, ce qui poserait la question de sa capacité à prendre des décisions politiques sur place. Dans ce premier contact, l'AFC M23 a transmis ses préalables. Autre point, selon les informations des RFI, des responsables rwandais ont également été conviés à Doha ces derniers jours. Mais un officiel rwandais précise, il ne s'agissait pas d'une réunion tripartite, mais d'un suivi de la rencontre qui s'est tenue le 18 mars dernier entre les chefs d'État congolais, rwandais et qatariens. Deux cadres différents, insiste cette source. Enfin, Doha exige une grande discrétion, une exigence renforcée par la prudence des acteurs africains. Le Kenya, l'Angola et d'autres pays impliqués dans les efforts de paix dans les Grands Lacs restent réservés sur l'initiative qatari. Ces pays insistent sur le principe des solutions africaines aux problèmes africains.
Patient Ligaudi, la RDC, où une attaque d'hommes armés a fait plus d'une dizaine de morts parmi les civils dans le Kwilu cette semaine, c'était mardi. Depuis plusieurs années, cette province limitrophe de celle de Kinshasa est en proie à un conflit entre l'armée congolaise et un groupe de miliciens Mobondo. Une opération de l'armée congolaise est en cours sur place, mais les atrocités contre les civils se poursuivraient. Il a dénoncé les crimes du régime de Muammar Kadhafi et Samir Cheguara est aujourd'hui dans le viseur de la justice libyenne, co-auteur d'un livre notamment sur les attentats de Lockerbie en Écosse. Il est accusé de possession illégale de documents classifiés qui impliquent directement l'ex-chef des services des renseignements libyens, Abdallah Senoussi, également beau-frère de Muammar Kadhafi. Samir Cheguara, lui, a été arrêté le 20 mars, soit deux jours après un article de la BBC révélant l'intérêt croissant des enquêteurs écossais pour ces documents. Libéré provisoirement, il reste sous la menace d'un procès, mais son éditeur Robert Laffont réclame l'abandon immédiat des poursuites. Christina Okello.
Le 20 mars, en plein après-midi, Samir Cheguara est interpellé dans son bureau à Tripoli. Accusé d'atteindre à la sûreté nationale, cet élu local est soupçonné de détenir des documents classifiés. Des archives pourtant déjà rendues publiques en 2018, mais qui ont retrouvé un écho explosif avec l'apparition du livre « L'assassin qu'il fallait sauver », accusant l'ancien régime libyen d'être derrière les attentats de Lockerbie et du vol DC-10 d'UTA. Pour Vincent Nuzzi, l'un des co-auteurs, cette arrestation n'a rien d'anodin.
Nous, on l'interprète comme un souhait de certains en Libye de faire pression sur lui, évidemment, pour le faire taire ou l'empêcher de pouvoir éventuellement continuer de dire ce qu'il a dit et de fournir des documents accusant le régime libyen de Kadhafi de ses attentats.
Parmi ces documents, des éléments qui pourraient servir de preuve à charge contre Abu Aguila Massoud, l'artificier présumé des attentats. Son procès doit s'ouvrir bientôt à Washington et Samir Cheguara devait y témoigner. Une perspective aujourd'hui mise à mal, estime Guillaume Denoir de Saint-Marc, qui a perdu son père dans l'attentat contre le DC-10 du TA.
Ça fait 37 ans que nous attendons le procès pénal. Et donc là, il y a une perspective de pouvoir avoir ce procès. Dans l'affaire du DC-10 du TA, il y a 170 morts, dont 99 Africains. Et c'est important qu'on puisse arriver au bout de cette histoire avec un procès contradictoire et que justice puisse enfin passer.
Une audience concernant Samir Cheguara est attendue cette semaine à Tripoli.
Les explications de Christina Okello. Au Tchad, cela fait un mois aujourd'hui qu'Olivier Monodji, notre confrère, directeur de publication de l'hebdomadaire Le Pays, également correspondant de RFI N'Djamena, a été arrêté. Il est notamment mis en cause pour intelligence avec une puissance étrangère. Deux autres journalistes tchadiens sont aussi sous les verrous. L'ONG Reporters sans frontières dénonce cette détention provisoire qui se prolonge.
RFI.
Que je m'en vais. Et tes larmes ne pourront rien changer.
Cette voix, ces voix si familières pour beaucoup d'entre nous, le duo Amadou et Mariam, vous l'aurez peut-être reconnu. Et c'est forcément avec émotion qu'on entend ces notes ce matin, cette reprise de Gainsbourg, car Amadou Bagayoko s'en est allé pour de bon. Il s'est éteint hier à Bamako à l'âge de 70 ans. Le Mali pleure évidemment l'un de ses fils prodigues. Plus largement, une grande perte pour le continent et bien au-delà, Alexandra Brangeau.
Amadou Bagayoko est né à Bamako le 24 octobre 1954. Très tôt, il montre des prédispositions pour la musique. Il apprend les percussions dès l'âge de 2 ans, l'harmonica, la flûte à 10 ans, puis coup de cœur pour la guitare. Adolescent, il joue déjà dans plusieurs orchestres quand il perd la vue à cause d'une maladie. À 20 ans, il entre à l'Institut des jeunes aveugles de Bamako. C'est là qu'il rencontre Mariam Doumbia, qui deviendra sa partenaire dans la vie et sur la scène. Lauréat du concours Découverte organisé par RFI en 82, le couple commence à se faire connaître dans tout le Mali, part vivre en Côte d'Ivoire et rencontre le producteur Maïkano. Enregistrement en France en 97 du premier CD Souni Tilé avec la chanson « Mon amour, ma chérie », la carrière d'Amadou et Mariam prend une dimension internationale. Début des années 2000,